Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Marion Saliba, musicienne française établie à Bucarest. Professeure de musique, guitariste, chanteuse, elle se produit un peu partout et dans différents univers. Nous allons en parler avec elle. Nous allons aussi évoquer son parcours de façon plus large, Marion Saliba étant également ingénieure avec une belle expérience en entreprise. Et à un moment donné de notre échange, nous ferons place à un petit intermède musical avec Juan, qui va l'accompagner. Ce sera d'ailleurs une première au sein de notre émission. J'en suis particulièrement content. Marion Saliba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, la première question qui s'impose, évidemment, c'est comment et quand vous êtes arrivée en Roumanie?
Alors, en Roumanie, je suis venue la première fois en 2010. L'entreprise pour laquelle je travaillais, je travaille toujours, voulait créer une succursale à Bucarest. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de venir en Roumanie. J'avais pas envie de faire de tourisme. J'avais envie d'avoir un vrai projet de vie. Donc, en fait, j'ai sauté sur
l'occasion. Vous avez envie de venir en Roumanie? Pourquoi?
Alors ça c'est une très longue histoire.
Ah, bon, on va essayer de décourter.
Quand j'étais ado, j'avais un groupe de musique et on avait un espèce de gars qui faisait impresario, qui avait une assoce Amitié Franco-Roumaine et qui organisait des tournées en Roumanie.
Ça c'était où?
En France, à côté de Lyon en fait.
D'accord. Ouais.
Entre Massif Central, la diagonale du vide en France. voilà, vers Rouen. Et évidemment, j'étais ado. Évidemment, mes parents n'ont pas voulu que je suive une troupe de gars qui avaient une trentaine d'années faire le tour de la Roumanie. Et c'est resté comme un goût bohème, musical. Enfin voilà. Donc le pays est resté en fait ancré pendant des années jusqu'à ce que je vienne pour ouvrir cette succursale en fait.
D'accord. Comment la musique s'est-elle imposée en vous? Est-ce que vous diriez, même si vous continuez à travailler pour cette entreprise, que c'est presque devenu votre motivation principale aujourd'hui?
En fait, j'ai commencé à 6 ans, donc je crois que ça l'a toujours été. J'ai un vague souvenir du jour où j'ai décidé de faire de la guitare, mais je devais avoir 5 ans, donc. Et du coup, j'ai pas vraiment de souvenir de moi-même, enfin de ma personnalité est complètement intégrée. Enfin, je peux pas vraiment.
Famille de musiciens ou
pas vraiment? Pas vraiment. Ma maman jouait un peu, mais pas vraiment. Famille d'artistes, par contre, enfin de voilà. Donc ça a toujours fait partie de ma vie.
D'accord. Je lis dans les informations que vous m'avez envoyées que vous avez développé une méthode d'apprentissage de la musique pour les plus jeunes qui incorpore la peinture et les histoires. C'est-à-dire?
Alors, il y a en 2017, quelque chose comme ça, quand ma fille est née, je me suis arrêtée donc de travailler pour mon job de corporate. Vraiment, je pensais d'ailleurs que je n'allais pas revenir. Et je ne savais pas trop quoi faire. Depuis quelques années, ça me travaillait un peu de donner des cours à des enfants. J'avais trouvé une assoce ici, à Bucarest, qui accueille des enfants qui sont aussi un peu en difficulté, minorité ethnique,
oui,
etc. C'est ça.
Ah oui, nous avons reçu plusieurs fois Franco Alozio et Yonuts Jogolendo.
Voilà. Ouais, ouais. Et j'avais proposé à Yonuts de donner des cours aux enfants, donc de donner gratuitement des cours aux enfants. Et j'ai commencé à leur enseigner la musique comme moi j'avais appris la musique il y a donc 40 ans, de façon très structurée, pas très marrant. Et je revenais à la maison et je disais à mon mari, qui est pédagogue Waldorf, je lui disais, je comprends pas, j'arrive pas. Enfin, ils n'arrivent pas à... Pourtant, c'est simple, je leur dis de faire une note, mais j'arrive pas à leur faire faire même 2 notes de suite. Et il m'a dit, mais non. Et c'est lui qui a commencé à me dire, il faut les enfants, il y a des enfants qui sont aussi un peu en échec scolaire, qui ont plus de difficultés. Il faut prendre le truc par l'autre bout. Il faut utiliser la mémoire avec des couleurs, des histoires, des personnalités pour les notes. Et petit à petit, en fait, j'ai développé un monde entier avec un château, avec chaque note qui habite, qui a une couleur différente, qui a un animal différent, qui a un nom différent, qui a une personnalité différente, avec des histoires presque de jeux de rôle où les enfants, ils doivent jouer je sais pas quoi pour ouvrir une porte. On utilise les blanches, les noires pour faire des pas qui durent plus ou moins longtemps. Enfin, tout ça, en fait, c'est... Donc, la mémorisation passe par le jeu. Et du coup, je l'utilise maintenant pour tout le monde, en fait.
Parce que vous avez appris la musique, j'imagine, de façon classique. Le solfège d'un côté, c'est l'instrument de l'autre.
C'est ça. Hein, un an de solfège. Après, l'instrument... très peu de jeux en groupe.
Tu as commencé par la guitare classique
J'ai commencé par la guitare classique, ouais.
Donc sur la jambe gauche, c'est ça
Oui, c'est ça. Avec une guitare en plus, il y a 40 ans, j'ai commencé même, j'avais 6 ans, avec une guitare entière d'adulte en fait. J'arrivais à peine à toucher le bout du manche.
Mais c'est ce qu'il faut, hein, je crois. Il ne faut pas commencer par une guitare pour enfant.
Maintenant, on fait toujours commencer par une guitare pour enfant. On fait plus ça. Moi, j'ai jamais.
D'accord, je pensais que c'était quelque chose qui perdurait. Précisément que s'habituer dès le départ à une guitare normale.
Je ne le ferais pas et puis je trouve que c'était très compliqué. C'était vraiment difficile.
Oui, c'est vrai que 6 ans, c'est un peu compliqué.
On est un peu un petit bout de chaud.
Oui, c'est vrai. Peut-être un peu plus tard, quand on commence à 10, 11 ans, effectivement.
Oui, c'est ça. J'avais pas non plus la force. Je pense même que j'ai développé des mauvais réflexes, en fait. Mais bon, voilà, c'était une autre époque. Je veux enseigner la musique d'une façon différente. J'ai eu la chance, à un moment donné, de tomber sur un super prof, Bruno Feugère, qui m'a fait jouer, mes deux frères sont aussi musiciens, qui nous faisait jouer ensemble, et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment fait de la musique. Et en fait, c'est ça que j'essaye de faire passer aux enfants. La musique, c'est pas juste du solfège et un truc hyper carré, c'est aussi le fait de s'écouter, de jouer ensemble et de créer quelque chose, de s'amuser en fait.
Donc, si je comprends bien, votre quotidien aujourd'hui, professionnel, c'est d'un côté toujours la vie en entreprise, les cours et les concerts.
C'est ça.
Hein? C'est ça.
C'est ça, exactement.
D'accord. Vous jouez également de la kora, l'harpe africaine. Comment vous définiriez cet instrument? Qu'est-ce qui vous apporte?
Alors, c'est un instrument qui vient du Sénégal et de Gambie. J'ai une copine sénégalaise qui m'a dit un jour, on considère au Sénégal que la kora, c'est... La voix qui parle avec Dieu. Et en fait, c'est comme ça qu'est vu l'instrument au Sénégal. Et c'est un son... Enfin, le son des harpes, en général, est extrêmement doux. Quand je commence à jouer, j'ai deux chats. Ils viennent à côté de moi et ils se couchent.
C'est pas le cas avec la guitare.
C'est un instrument qui est très doux, qui est extrêmement mélodieux. Qui est très riche aussi, puisqu'il y a 21 cordes. Donc, par rapport à la guitare, il y a des cordes qui sont très hautes et des cordes qui sont très basses, qui vont vraiment dans les graves. C'est pour moi l'instrument... je joue beaucoup de plusieurs instruments, au-delà de la guitare et de la kora. Je trouve que la kora, c'est l'instrument le plus mélodieux, en fait.
J'imagine que le fait de jouer de la guitare vous aide, ça vous a aidé à appréhender la kora.
J'ai cru au début, d'ailleurs. Je pense que si j'avais su que ça m'avait pas du tout aidé, je suis pas sûre que je me serais lancée. Non, ça m'a pas du tout aidé. Pas du tout. C'est
le positionnement des notes, c'est comment?
Rien du tout, rien. On repart de zéro complètement.
Un peu comme l'ukulélé quelque part.
Non, le ukulélé à la guitare, par contre, c'est très proche.
Même si les notes sont pas au même endroit.
Les notes sont pas au même endroit, mais la technique est exactement la même. On place le pouce derrière au même endroit. Une fois qu'on a appris à appuyer sur les notes, c'est pareil. Alors que là, la technique est vraiment radicalement différente. C'est une harpe. C'est vraiment une harpe.
C'est différent.
Ouais.
Quel est votre rapport avec votre carrière en entreprise aujourd'hui? J'ai entendu qu'à un moment donné, vous pensiez l'arrêter.
Oui, ouais. Après mon diplôme d'ingénieur, je pense que j'avais besoin de rentabiliser mon diplôme. Donc, il fallait que j'étais très ambitieuse. J'ai pris ici une grande équipe.
De quoi vous occupez exactement ?
Alors, j'ai changé beaucoup de métiers. La dernière fonction, j'étais responsable d'une équipe qui faisait de la comptabilité, en fait, pour tout un tas de succursales françaises. Mmh. À un moment donné, on m'a proposé de prendre, donc j'avais une centaine de personnes dans l'équipe, et on m'a proposé de prendre une équipe qui était encore plus grande. Et en fait, je me suis dit, mais je monte, mais où je vais en fait? Et j'ai arrêté. J'ai redescendu brutalement. Et j'aime continuer parce que ça me donne un certain équilibre.
Vous étiez où quand vous
êtes... Ici, à Bucarest, oui. À Bucarest.
On s'est monté à Bucarest.
Ouais. Et j'ai décidé d'arrêter complètement à un moment donné. J'ai pris 3 ans de pause, en fait. Avec mon mari, on a monté l'école d'art qu'on a toujours. Qui est principalement...
Ah, vous avez monté une école d'art?
Oui,
ah,
ouais. qui est plus... Alors, avant le Covid, on faisait beaucoup de choses. Le Covid a détruit beaucoup de choses. Et du coup, on s'est recentré sur la musique et les langues étrangères. Avant, on faisait aussi du dessin, il y avait de la danse, du théâtre. On a arrêté plein de choses.
Qui est à Bucarest?
Qui est à Bucarest.
Qui s'appelle
est à côté, Casa Cuarte.
D'accord.
C'est à côté de Gara de Nord.
D'accord.
C'est un très bel espace. J'ai arrêté et j'ai repris parce que je suis pas que musicienne, je suis pas que ingénieure, je suis un peu entre les deux et j'ai besoin d'avoir les deux en fait qui s'équilibrent, je crois.
D'accord.
Et donc je passe la moitié de mon temps en fait pour bosser pour cette entreprise avec laquelle je suis venue.
Donc vous êtes à temps partiel ou
Oui, je suis à temps partiel.
Ah ouais, d'accord, ouais. Très bien.
Ouais.
Donc vous avez trouvé le parfait équilibre.
Oui, parfait, oui, effectivement.
Très bien, très bien. Alors, je vous propose de présenter Juan et de commencer cet intermède musical. J'en suis vraiment ravi parce que je vous ai un peu écouté en préparant cet entretien et j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, on va appeler Juan.
Donc, on va chanter une pièce que j'ai écrite il y a à peu près 5 ans, qui a un tempo assez intéressant. 1, 2, 3, 4 et... De petites flammes sur l'herbe ont marché. Pieds de braise sur le sol, dans les failles d'un roc ont glissé jusque dans l'ombre, sans se décourager, elle monte jusque là-haut où la lune est plantée sur leur chemin. La pluie tombe où se cacher. 3 petites flammes sur l'herbe ont marché. Leurs pieds de braise sur le sol. Et dans les failles d'un roc ont glissé jusque dans l'ombre. Sans se décourager, elle monte jusque là-haut où la lune est plantée sur leur chemin. La pluie tombe où se cacher. Là,
merci infiniment, Marion. C'était vraiment très très beau. On va reprendre notre discussion. Et merci à Juan également. Le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas en Roumanie. C'est un statut qu'on ne va pas détailler ici, mais ça permet en fait aux gens du spectacle, d'après ce que je comprends, après un certain nombre de concerts ou de spectacles, de pouvoir être indemnisés pendant un temps pour pouvoir avoir une certaine stabilité financière, hein, grosso modo.
Oui, c'est ça.
Alors, ça n'existe pas en Roumanie, ça n'existe pas pas simplement en Roumanie.
C'est assez dans beaucoup de pays, oui.
Dans beaucoup de pays.
Enfin, c'est plutôt assez... l'inverse. C'est
exactement.
La France qui est une exception.
C'est
oui.
une exception. Parfois, vous vous dites, pourquoi pas rentrer parce qu'au moins, je pourrais bénéficier de ce statut.
Alors, je ne me suis jamais posé cette question pour être complètement honnête. Tous les musiciens que je connais, en fait, presque tous ont un travail à côté. Donc, c'est ce que je fais aussi.
Ici,
en Roumanie. Je pense effectivement que pour monter des projets très complexes, c'est bien. Enfin, le statut d'intermittent est vraiment important. Maintenant, j'aime bien la liberté que j'ai de pouvoir choisir sans aucune contrainte combien je veux faire de spectacles par an, quel type de spectacle je veux faire, parce que finalement, je ne chante plus que mes pièces, en fait. Ça fait très longtemps que je ne fais plus de cover. Donc, quand je fais un spectacle, en fait, c'est parce que j'ai envie de le faire et que j'ai un truc
cover,
à dire.
Cover, ça veut dire...
Ah, des reprises.
Voilà,
des reprises.
Ouais.
Des reprises d'autres chansons. Et j'aime cet équilibre en fait. Donc, mais c'est vrai que le sacrifice, c'est que je travaille vraiment énormément, beaucoup.
Mmh. Vous vous produisez où, à Bucarest ou ailleurs?
Alors,
en général, dans quel genre de salle?
Dans deux semaines, par exemple. Mmh. On joue avec Juan en duo au Zadar Bar,
oui.
Strada Vulcanescu, qui est un super endroit avec plein de musique éclectique.
Alors ça, on va, c'est-à-dire ouais. La date exacte?
Le 18 juin.
Le 18
c'est
juin
un jeudi.
Au Zadar Bar.
Ouais,
d'accord,
le 18 juin au Zadar.
Je vais le noter moi-même,
ouais.
D'accord. À quelle heure?
C'est à 20h.
20h, d'accord. Mm-hmm.
Et on va jouer un set de musique archéologique.
C'est-à-dire
c'est un nouveau projet. C'est la première fois qu'on... donc d'habitude, on a notre set avec principalement mes compos. Juan a aussi écrit des chansons. Donc c'est le set qu'on fait un peu partout. Et là, c'est la première fois... ça fait 2 ans que je travaille sur le projet. C'est des musiques... donc on commence au moment de la préhistoire. Évidemment, il n'y a pas de musique écrite pendant la préhistoire. Par contre, ce qu'on a fait, un instrument préhistorique. On est allé chercher dans la montagne de l'ardoise. Et on a créé un lithophone, en fait. Oui. Il y a 2 ans de travail derrière tout ce truc-là. Un lithophone, ça veut dire c'est comme un xylophone, mais avec des pierres, en fait. J'ai choisi les pierres qui sonnaient le mieux. J'ai sélectionné, j'ai noté, en fait, quelles notes c'était. J'ai essayé de savoir quelle gamme je voulais faire. Enfin bon, ça demandait beaucoup de travail. Donc, il y a cet instrument-là.
C'est un instrument qui a...
c'est un instrument préhistorique, en fait.
Qui a existé.
Oui. Parce que les premiers instruments qui ont été trouvés étaient des flûtes et très probablement, du coup, enfin, on ne peut pas être complètement sûr, évidemment, mais il y a des bouts d'os avec des trous dedans qui semblent faire un son de flûte. Et ils ont trouvé aussi des pierres de différentes tailles qui, comme par hasard, résonnent. Et donc, il semblerait que ce soit... Enfin, je préfère parler en... On n'est jamais sûr de rien, donc je ne peux pas affirmer quelque chose, mais a priori, oui, c'était un des instruments qui était utilisé pendant la préhistoire. Donc, on va jouer en faisant un peu d'impro avec ce truc-là. Après, ça fait quelques années, parce que je chante aussi pour un groupe, pour une troupe de théâtre qui s'appelle Logos, qui a monté l'Iliade et l'Odyssée, mais de façon... Telle que les pièces étaient jouées dans l'Antiquité. Donc ça veut dire tous les acteurs sont sur scène. Pour l'Iliade, les costumes sont très simples. La diction des acteurs ressemble à une diction vraiment classique de tragédie. Donc sans évidemment sans micro, etc. Et du coup, pour cette pièce-là, je m'étais acheté un autre instrument qui est un saz, qui est un genre de grand luth turc, qui ressemble aussi aux luths antiques, qui étaient utilisées dans l'Antiquité. Et on a un set de pièces antiques, alors là pour lequel on a trouvé des partitions, la plus vieille partition du monde qui s'appelle l'épitaphe de Saïkolos, que j'ai interprété, enfin sur lequel j'ai fait une version au saz, et sur lequel on connaît vraiment les notes, le rythme, le chant, et donc on est capable de le chanter tel qu'il a été traduit avec la notation actuelle. Et donc on a quelques chansons comme ça, j'ai aussi une adaptée avec la Kora, un des plus vieux poèmes du monde qui date de 1200 ans avant Jésus-Christ, qui est égyptien. Donc voilà, on a, c'est juste des exemples de pièces qu'on va jouer le 18 juin au bar qui s'appelle le Zadar. Mmh.
Donc ça ressemblera pas trop à ce que nous venons d'écouter.
Non, ça va être un peu différent. Ça va être un peu différent.
Mais ce sera vous et Juan.
C'est toujours tous les deux. Ouais,
d'accord.
Ouais.
Donc ça restera très très acoustique quand même.
Oui, ah. oui.
D'accord.
Ouais. On va faire aussi beaucoup d'improvisation. Mais voilà. Donc c'est un set qui est un petit peu différent. C'est pas nos compos cette fois-ci. J'ai aussi écrit des pièces d'inspiration viking, ça part dans tous les sens, mais en fait on a essayé dans ce spectacle de faire vraiment un espèce d'ordre chronologique avec que des musiques anciennes, en fait anciennes, et qui sonnent extrêmement modernes, en fait, pour la plupart. Et on a notre set classique de compo qu'on va jouer dans le prochain concert, est à Brasov, au Val Café, qui est un lieu superbe à Brasov, qui a une vue aussi superbe sur les montagnes. Enfin, c'est vraiment un beau café.
Ça, ce sera quand ?
Le 28 juin. Ouais, le 28 juin, c'est un dimanche.
D'accord.
10 jours après, voilà.
Et donc, pendant votre concert, le prochain, donc avec ces instruments d'un autre temps, vous expliquerez avant chaque chanson ce qu'il en est des instruments et tout ça.
Les instruments, de où viennent les pièces, les aussi, puisqu'il y a une partie... il y a une partie qui est purement historique, et il y a une partie après où on divague un peu en improvisation. Donc je sens aussi le besoin de clarifier quelle est la partie vraiment historique et quelle est la partie qui ne l'est pas, en fait.
On pourra s'y rendre sans réservation au Zadar,
oui,
ou alors
oui,
on
oui.
peut
non,
ouais,
non,
si
non,
on peut
vous pouvez
on
venir
va comme ça et... d'accord,
ouais,
très bien, c'est noté. Dernière question, Marion Saliba, qu'est-ce que vous aimez en Roumanie et ce que vous aimez moins?
Alors, en Roumanie, j'aime presque tout, en fait.
Notamment parce que vous vivez à Bucarest.
Ouais. J'aime presque tout. J'ai essayé de revenir en France, mais je n'y arrive pas. J'aime la chaleur des gens. Il y a une espèce de... Je trouve une espèce de douceur, en fait, en Roumanie. J'ai plus de mal avec, évidemment, la partie... politique est extrêmement instable. Il y a des choses qui sont instables. Je me sens bien. Je me sens juste à la maison, en fait.
Ouais. Et puis avec peut-être ce sentiment d'être libre de faire un peu ce que vous avez envie
oui,
de faire.
Oui, c'est vrai.
Non.
C'est vrai. J'aime
moins
le chaos
choses,
aussi.
Moins de choses imposées.
Oui, j'aime, hein? j'aime cette partie chaotique.
Qui permet aussi
latine.
De faire des choses.
Ouais.
Très bien. Écoutez, Marion Saliba, ça a été un plaisir de vous avoir au micro du soir. Encore merci pour ce bel intermède musical. Merci à Juan pour cette belle chanson. Et,
merci également.
Je pense que je passerai au Zadar Bar le 18 parce que ce que vous faites me plaît beaucoup. Merci. Merci Marion et à bientôt.
Merci beaucoup.
Ouais, et bonne route. Ouais. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un beau week-end en musique. Week-end Placoute. Au revoir.